le midi, ensemble, Daniela Lombroso.
Festival international du film policier de Beaune, avec des invités qui vont arriver dans quelques instants, la présidente du jury, la réalisatrice Danielle Thompson et le comédien Jean-François Stévenin. C'est une réalisatrice et scénariste culte du cinéma français. Elle a signé le scénario de La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, La Boum ou encore La Folie des Grandeurs. Elle a réalisé La Bûche, Fauteuil d'orchestre ou Le Code a changé. Aujourd'hui, elle est la présidente du jury du 7e Festival international du film policier de Beaune. Et puis à ses côtés, nous recevrons l'acteur Jean-François Stévenin, qui lui aussi a tourné avec les plus grands, Truffaut, Jean-Pierre Mocky, Bertrand Blier. Ils seront avec nous tous les deux dans quelques secondes.
Elle arrive.
Pour parler du polar ici à Beaune. Et puis, c'est que de la télé, ça sera avec Patrice Gascoigne. Bonjour Patrice. Patrice Gascoigne en direct dans nos studios à Paris. Pas de Patrice Gascoigne, donc à Paris. Allô les stars, ce sera avec Thierry Garcia, en tout cas, on l'espère. Et Danielle Thompson vient de nous rejoindre. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à Jean-François Stévenin d'être avec nous également ici au Festival international du film policier de Beaune, qui est ouvert au public d'ailleurs. Vous pouvez tous aller voir des films si vous le souhaitez. C'est jusqu'au 29 mars. Et c'est l'occasion de mettre à l'honneur le polar, mais aussi de rendre hommage aux grands du cinéma comme Claude Brasseur ou Bertrand Tavernier, de faire honneur, pourquoi pas, au vin de Bourgogne. C'est un beau programme pour vous, Danielle Thompson, qui êtes présidente du jury.
C'est un magnifique programme.
Qu'est-ce que vous préférez dans tout ça, voir les films ou faire honneur au vin?
Ah, écoutez, c'est pas mal de mélanger les deux, mais c'est vrai qu'on fait un petit peu attention. On s'est parlé tous entre nous hier soir en se disant que voilà, il fallait quand même qu'on garde un petit peu la tête fraîche pour le matin. Et donc, on essaye de limiter, mais je dois dire que la tentation est très forte.
Les vins de Bourgogne à consommer avec modération. Jean-François Stévenin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi membre du jury. Hier soir, comme nous tous, après le film, vous étiez à la Polée. Alors, la Polée, c'est traditionnellement un repas de fin de vendange, une grande salle. Là, nous a accueillis hier avec un circuit en rond. On est passé d'un stand à l'autre. On a dégusté les meilleurs vins de la région, accompagnés à chaque fois d'une spécialité d'un chef du coin, escargot de Bourgogne, boudin noir sur pain d'épices, bœuf bourguignon. On vous a fait déguster d'ailleurs une dizaine de vins, du Gevrey Champertin, Pouilly Fuissé, Bourgogne Aligoté, pour finir, le fameux vin des Hospices de Beaune. Tous ces noms qui nous font saliver. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié, Danielle Thompson?
Écoutez, j'ai beaucoup aimé le Pouilly Fuissé et, voilà, et j'ai beaucoup aussi aimé...
Le vin des Hospices de Beaune était incroyable. Vous ne l'avez pas goûté peut-être parce qu'il était à la fin. Moi, j'ai résisté jusqu'au bout.
Je l'ai même goûté avant la fin.
Et vous, Jean-François Stévenin?
Moi, je n'ai pas eu cette chance parce que comme j'étais... On a vu une deuxième projection, c'était un peu en différé, parce que moi j'étais la veille, et le matin même, à Fribourg, dans un festival de cinéma aussi.
Ah, donc il y a de la concurrence.
Branché fondu, la 50-50 avec du vin blanc et de partout.
Bon.
Donc, et arrive à. Ça faisait quand
c'était
même.
Pas, c'était
bien
pas
choc.
Si mal aussi.
Mais on a goûté quand même. Surtout, ça fait drôle moi, pour moi, parce que je ne vais pas souvent, je ne suis jamais dans les jurys. Comme ça, parce que j'aime pas tellement juger les films les uns contre les autres ou tout ça. Et là, j'ai volontiers accepté parce qu'en plus, c'est une région que j'adore. On a tourné ici les frères Gravet avec René Ferret. On était à Savigny-les-Beaunes où on a passé quasiment 3 mois. J'habite le Jura, c'est à côté.
C'est
donc
pas loin, ouais.
Souvent. Voilà, ça me semblait très sympathique d'être là, surtout qu'il y a un gros programme. Et puis, ça permet, par exemple, avec Daniel, c'est la première fois qu'on se voit.
Ah oui, carrément. Je savais que vous n'aviez jamais tourné ensemble, mais alors non, au point de vous être jamais rencontré,
j'ai vu évidemment lui beaucoup
au cinéma.
Sur l'écran et au cinéma, mais sinon, c'est vrai qu'on ne s'est pas croisé.
Danielle Thompson, en tant que présidente du jury, est-ce que votre voix compte double pour le choix des vins à table?
Je vais inaugurer ça dès ce soir.
et pour le choix des films?
Alors, pour le choix des films, dans le règlement que nous avons pris connaissance hier, s'il y a 50-50, à ce moment-là, mes deux voix peuvent jouer. Ah. J'ai un grand, grand, grand pouvoir et ça me fait très, très plaisir.
En tant que cinéaste, Danielle Thompson, vous ne vous êtes jamais frotté, vous, au polar, si ? un scénario
non, je m'y frotte beaucoup en tant que spectatrice parce que j'aime beaucoup ça et sinon je n'aurais pas accepté d'être dans ce jury. Ça me fait un plaisir fou de voir ces films qui sont de toute façon où on risque en tous les cas beaucoup moins l'ennui que dans d'autres genres.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai que je ne m'y suis pas frottée, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de particulièrement difficile.
Qu'est-ce qui est difficile et qu'est-ce qui fait un bon polar ? C'est d'abord de maintenir le suspense, hein, Jean-François Stévenin, pour vous ?
La mayonnaise est mystérieuse. Ouais. Par exemple, j'en ai revu un, je dis ça parce que je n'ai pas le droit de parler de ce qu'on voit en ce moment. Mais j'ai repassé parce que j'avais une carte blanche à Fribourg, un film qui s'appelle Donnie Brasco, qui était avec Al Pacino et Johnny Depp, qui est une histoire d'infiltré, qui est absolument...
C'est haletant, quoi. On est tenu en haleine, vraiment.
On est complètement terrifié, ouais. On est dégoûté par plein de choses. En même temps, on commence à aimer de plus en plus les personnages. Mm-hmm. Ça, c'est le comble, d'arriver à aimer des vrais salopards. C'est comme un grand film. Et puis, il y a toujours... Il y a de l'humour, il y a de la joie, il y a de la vie. Alors, il faut qu'il y ait un petit peu tout ça. C'est pas simplement ce qui se passe au point de vue qui est le méchant, qui fait quoi. Donc, ça, c'est une alchimie totalement.
Pour vous, Daniel Thompson, qu'est-ce que c'est la difficulté pour faire un bon polar ?
Voilà, Jean-François vient de décrire exactement ce qu'on attend et ce qu'on espère. Et c'est vrai qu'on est emmené et emballé dans des univers qui sont pas du tout les nôtres. Il y a des films, notamment d'ailleurs ceux que je fais et certainement ceux que tu as fait souvent, qui sont des films où on se reconnaît, où on est tout à coup en empathie parce que c'est proche de nous et parce que là c'est le contraire. On vous éloigne de l'univers qu'on connaît, on vous emmène complètement ailleurs. Et en effet, une des grandes qualités d'un formidable polar, c'est qu'on tombe amoureux de personnages qui sont violents, monstrueux parfois.
Enfin, amoureux, très loin de ou alors nous, très on loin les craint.
Ça, c'est très. Ouais. C'est
Hitchcock disait, il faut réussir à trouver l'équilibre, traiter avec autant d'importance les personnages et l'histoire. C'est grande peut-être ça une partie du secret du bon polar.
Alors, ça, Daniel Thompson, polar, vous n'en avez jamais fait. En revanche, vous allez vous frotter à un nouveau genre bientôt, parce que vous allez tourner un film historique. Vous avez un projet...
Oui, nouveau genre, surtout dans la mise en scène, parce que j'avais déjà écrit des choses qui se passaient dans des temps lointains, notamment La Reine Margot. Mais c'est vrai que là, je suis en train de goûter à ce plaisir assez merveilleux. Ça fait à peu près un an et demi que je vis au 19e siècle. Voilà. Purement et simplement.
Vous êtes déjà en tournage ou c'est l'écriture?
Non, si j'étais en tournage, ouais. Je ne pourrais pas être là. Non.
Ce serait
Guillaume Gallienne,
à la fin de l'été.
Ouais. Guillaume Gallienne et Guillaume Canet au générique de ce
Guillaume
film.
Guillaume Gallienne qui va jouer Cézanne et Guillaume Canet qui va jouer Zola et ces deux hommes.
L'immense
Guillaume Gallienne et le merveilleux Guillaume Canet qui vont incarner ces deux personnages. J'ai découvert il y a une quinzaine d'années que ces hommes se connaissaient. Je ne le savais pas du tout. J'avais une sorte un petit peu de notion assez vague de tout ce qui se passait au 19e siècle. Je mélangeais un petit peu, je ne savais plus, il y avait la Commune, Napoléon III, les impressionnistes, Flaubert, le train, la voiture, enfin bon, tout ça était un peu des souvenirs d'école et je me suis plongée avec un bonheur absolu dans ce siècle. C'est pas du tout d'ailleurs, je ne raconte pas du tout l'histoire du 19e, je raconte l'histoire d'une amitié très très compliquée entre ces deux garçons qui se sont connus à l'école.
Vous allez tourner en Provence, là où Cézanne
Peignait ? Bien sûr, je vais tourner à Aix, évidemment.
Ouais. Et en costume, comment vous faites pour les costumes du coup ? Il y a beaucoup de figurants, il y a beaucoup de costumes.
Alors, il y a le moins de figurants possible, pour toutes les raisons qu'on imagine.
Ouais, il y a encore un article dans le Figaro aujourd'hui qui dit d'ailleurs que le cinéma français a de moins en moins d'argent et qu'on fait moins de films chers. Quel est le budget de votre film, par exemple, Daniel Thompson ?
Écoutez, on est en train d'essayer de le restreindre autour de 8 millions d'euros. J'aime pas trop parler de budget parce que c'est pas ça qui est intéressant pour le public.
Donc, du coup, on restreint aussi les costumes ? Comment vous faites ?
Les costumes, on est en train d'étudier ça. Vous savez, on n'est pas dans un univers, bien sûr, de grand luxe. On est chez des artistes, on est chez des gens
qui, et puis
une grande partie du film, d'ailleurs, l'un et l'autre sont très très pauvres. L'un parce que son père lui donne pas d'argent, c'est Cézanne, et l'autre parce que Zola est un orphelin qui a vraiment crevé de faim pendant une grande partie de son enfance et de sa jeunesse. Donc on est, Dieu merci, pas trop dans des costumes
d'époque
donc, très, 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 très très luxueux, mais on est quand même dans bien sûr, d'abord ça change un peu, et puis les univers évoluent, c'est d'ailleurs un des clés de l'histoire, parce que ces deux hommes vont petit à petit s'éloigner l'un de l'autre tout en continuant à s'adorer, et c'est compliqué pour eux, sinon il n'y aurait pas de film, donc Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de costumes quand même, parce que j'ai quand même beaucoup de personnages.
Vous avez déjà tourné...
Heureusement, l'argent ne fait pas tout quand même.
Non, absolument. Vous avez déjà tourné ici à Beaune, Daniel Thompson, une scène culte de la Grande Vadrouille. Vous n'étiez pas réalisatrice, c'était Gérard Henry, votre père, mais vous étiez là. C'était cette fameuse scène qui se passait. Je crois qu'il y avait eu une description des tuiles vernissées, les tuiles vernissées de Beaune.
Oui, c'était devenu une sorte de blague avec Marcel Julien, qui était notre co-auteur et qui était celui à l'époque qui prenait la plume et qui nous proposait comme ça des descriptions des lieux. Et donc c'est vrai que ces tuiles vernissées nous avaient fait rire. On avait un fou.
Vous êtes allé les voir? Vous avez eu le temps?
Non, mais je vais y aller. Mais je dois dire, bon, d'abord je les ai bien sûr vues sur toutes les photos et puis dans le film. Et puis cette fameuse scène, magnifique. C'est, je crois que le choix des hospices de Beaune était justement un des grands soucis de mon père dans ses comédies. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elles sont toujours tellement appréciées aujourd'hui, c'est que il aimait que ce soit beau.
Et on drôle et beau
dans
à la
n'importe
fois.
Quel couvent. Il avait choisi les hospices de Beaune surtout parce que ces fameuses tuiles vernissées, elles sont magnifiques parce que le lieu est splendide, l'intérieur aussi.
On écoute un extrait, Daniel Thompson.
Vous aimez bien tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Asseyez-vous. Dites 33. 33. 33. Eh ben.
33.
Oui.
Voilà un extrait donc de La Grande Vadrouille. Daniel Thompson et Jean-François Stévenin sont vos invités aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Nous sommes en direct du Festival International du Polar. C'est jusqu'au 29 mars ici à Beaune en Bourgogne. C'est ouvert à tous. Vous pouvez aller voir des films si vous le voulez. Dans un instant, celui qui sait aussi bien faire de Funès que Bourville, c'est Thierry Garcia pour Allo les Stars. France
Bleu. Dimanche 29 mars, les Français votent pour le second tour des élections départementales.
Parce que cette élection nous concerne tous au quotidien, France Bleu sera la radio qui vous aidera à y voir plus clair en répondant à vos questions.
Dossiers spéciaux dans toutes vos éditions, invités exceptionnels, débats citoyens lors de soirées et matinales spéciales. Les résultats en ligne sur francebleu.fr.
Les élections départementales sont sur France Bleu.
France Bleu, France Bleu.
France Bleu Midi ensemble. En direct du Festival International du Film Policier de Beaune, Daniela Lombroso.
Daniel Thompson, présidente du jury du Festival International du Film Policier de Beaune, et Jean-François Stévin, membre du jury, sont vos invités ce midi. Et tout de suite, c'est Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous. Et on attaque tout de suite avec un premier appel.
Oui, bonjour, c'est Jean-Philippe Smet. Mais vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Moi, j'appelle pour lire avec mes mots à moi, que je prononce avec ma bouche, que quand on veut faire un festival du polar, il faut surtout pas l'appeler le festival de Beaune.
Pourquoi ?
Ben parce que les Beaunes, c'est les femmes de ménage. Et que si les femmes de ménage, elles débarquent sur la scène du crime, elles vont tout nettoyer. Et du coup, après, il n'y aura plus d'indices. Donc, plus d'enquête. Et plus de films policiers non plus. Et ça, pour un festival du polar, c'est pas rock'n'roll.
Ah, j'avoue, c'est une logique implacable, Johnny. Je m'incline. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est François Hollande. Moi, j'appelle pour féliciter les organisateurs du Festival de Polar. Oui, j'aime beaucoup ce style. Ça me parle. Oui, ça me parle. D'ailleurs, j'aurais même pu faire partie du jury, vous savez.
Vous pensez avoir des compétences particulières pour ça ?
Mais bien sûr que j'ai les compétences, Daniela. Regardez ce qui m'est arrivé depuis 2012. L'affaire Cahuzac, la rupture avec Valérie, le chômage, les élections européennes, le retour de Sarkozy, le 49-3, la montée du Front National, les départementales. Moi aussi, je suis un spécialiste de la série noire. Mais la différence, c'est qu'avec moi, il n'y a jamais de suspense. Les gens disent toujours que le coupable, c'est Hollande.
Faut avouer à moitié. Pardonnez, monsieur le Président. Bonjour.
Bonjour, c'est Jean-Claude Godin. Alors, bonjour, moi j'appelle pour élever une vive protestation auprès de madame la présidente du jury du Festival International du Film Policier de Beaune.
Ah bon, et quel genre de protestation ?
Mais bonne mère, qu'est-ce que j'apprends ? Tous les ans, une ville est honorée par le festival pour ses compétences en matière criminelle. New York, Naples, Mexico, Paris, et cette année, Séoul. Alors, fan de chichoune, qu'est-ce qu'on attend pour honorer Marseille ? Marseille et sa bouillabaisse de cadavres. Sa canebière de règlement de compte, sa vente à la criée de Kalachnikov. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, Madame Lombroso et toute l'équipe du festival, que Dodo la Saumure ouvre un bordel dans la basilique Notre-Dame de la Garde, hein, que les époux Balkany deviennent citoyens d'honneur de la ville, ou que l'on débaptise le stade Vélodrome en stade Émile Louis. Hein. Allez, Madame Thompson, pour l'an prochain, je compte sur vous.
Je suis sûre que votre requête a été entendue, Monsieur Godin. On va laisser la parole à Chantal là-dessous.
Ah ben dites donc, ma petite Daniela. On s'éclipse en Bourgogne, brosser du comédien dans le sens du voile, et on oublie d'inviter sa petite chanson d'amour. Dis donc, c'est pas très gentil ça, hein. D'autant que j'aurais pu être d'une grande utilité. Ça me connaît, moi, les policiers. Je suis quand même un groupement d'intervention à moi toute seule.
C'est-à-dire
quand je transforme mon lit en zone d'opération, et que je débarque uniquement vêtu de mon casque du GIGN et de ma matraque de CRS, ils tombent tous raides, vous me croyez pas? Envoyez-moi le petit Stévenin, je vais vous faire une démonstration.
Je vous l'envoie tout de suite, il est partant, hein, Jean-François Stévenin, ça vous dit?
Allez,
une petite démonstration?
Allez, on y va, allez, viens, Jean-François.
Il m'impressionne beaucoup.
Ouais. Et fait une des voix des guignols de l'info, c'est Thierry Garcia qu'on retrouve tous les jours à 12h40 dans France Bleu Midi ensemble. Vous avez ri, vous pouvez l'applaudir, n'hésitez pas, ça vous fera plaisir. On le retrouve. Thierry Garcia que l'on retrouvera demain pour un nouvel épisode de Allô les stars.
Le midi, ensemble. Daniela Lombroso. France Bleu, les concerts privés.
Oh, j'entendais rien.
France Bleu vous offre.
Vous avez entendu bien.
Ah ouais.
J'entends rien, moi, dans mon
casque.
Ce soir, de 20h à 21h, sur France Bleu.
Avec infoconcert.com.
bien toi. C'était Florent Pagny sur France Bleu.
France Bleu Midi ensemble. En direct du Festival International du Film Policier de Beaune, Daniela Lombroso.
Et vos invités aujourd'hui, Danielle Thompson, présidente du jury, et Jean-François Stégenin, simple membre du jury, mais membre actif, j'imagine. Vous avez entendu Thierry Garcia tout à l'heure imiter Johnny Hallyday. C'est une concurrence pour vous.
Je vais dire un truc, moi aussi j'aime beaucoup Johnny Hallyday, parce que... j'aime beaucoup, tu vois, c'est des trucs qui s'expliquent pas.
Jean-François Stévenin qui imite...
Qui adore le cinéma.
Voilà, qui adore le cinéma, mais vous l'imitez aussi bien physiquement d'ailleurs que dans la voix. Hein. C'est pas seulement une imitation vocale. Vous avez une amitié, tous les deux, qui vous lie depuis longtemps?
Ben, c'est-à-dire que pour moi, c'est toujours Johnny. C'est-à-dire que quand on est fan depuis 1969, c'est Johnny.
Ça reste le mythe, quoi.
Et lui prétend que je suis son pote. Il m'appelle le petit ours. Et il faut que je sois là, dans les concerts.
Ah oui, donc vous allez le voir régulièrement dans les concerts.
Oui.
Et vous prenez votre pied, à chaque fois.
Ah oui.
Et il est comment dans la vraie vie, Johnny?
Dans la vraie vie, il s'emmerde.
Il s'emmerde tout le temps, donc il a besoin de gens comme vous pour le distraire.
Triste. Ouais, triste. C'est absolument... Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Non, d'une tristesse totale, il s'emmerde. Il est... Je sais pas, il est encore sur un bateau, il sort pour faire une photo avec un homard. Ou avec sa femme, et puis 10 minutes après, il est dans le sous-sol du bateau en train de regarder des DVD. Un jour, je l'appelle, il me dit, on va à Naples demain. Sa femme me dit, mais non, on y était hier. Écoute, je sais pas trop où on est, il y a de l'eau bleue partout, enfin, je te la passe.
Il s'en fout. Il est blasé.
Il est heureux sur scène.
Sur scène, uniquement sur scène.
J'ai l'impression. Ouais. Et en voyant des films, et quand il tourne.
Danielle Thompson, vous n'avez jamais eu envie de tourner avec Johnny?
Mais si, je l'ai rencontré souvent, je le connais un peu, et c'est vrai que...
Qui s'emmerde.
Alors ça, je ne le connais pas assez pour voir qu'il s'emmerde, parce qu'en fait, je l'ai toujours rencontré assez brièvement, et puis je l'ai vu bien sûr en concert, et bon, il a une gueule, alors effectivement, la fameuse gueule, elle est quand même là, il faut bien le dire.
Vous le trouvez bon comédien?
Je le trouve très bon comédien, je le trouve toujours très juste, très sobre, et voilà, c'est quelqu'un qui n'en fait jamais trop, et ça, c'est déjà une énorme qualité.
Il était formidable dans L'Homme du train, par exemple.
Formidable dans L'Homme du train, absolument.
Une économie comme ça. Ah, il aime ça.
Écoutez. Ça résume bien ce que vous disiez, hein, Jean-François Stévenin. Il ne l'a plus assez souvent, apparemment. Il y a un autre monstre sacré, c'est Claude Brasseur, auquel le festival va rendre hommage. Il sera d'ailleurs votre invité demain dans France Bleu Midi Ensemble. Vous avez tourné avec lui, Daniel. Il était le papa de Sophie Marceau dans La Boum, dont vous avez écrit le scénario. Vous considérez que c'est un des derniers monstres sacrés du cinéma?
C'est un acteur formidable. C'est quelqu'un qui a un sens du texte qui est absolument extraordinaire. Quand on fait une lecture avec lui et qu'on a écrit donc des dialogues sur lesquels on a travaillé longtemps, et on s'est dit... Là, tout à coup, c'est un comédien, et c'est une des choses que je trouve absolument fascinante et tellement attachante chez les grands comédiens. Ce texte se met à vivre, et à vivre même parfois autrement que ce qu'on avait imaginé, avec quelque chose, une sensibilité et une vérité absolument extraordinaire.
Et lui, il est comment sur le tournage, humainement?
Il est formidable, il est d'une grande discipline, comme encore une fois sont les grands comédiens, et puis il a cette voix totalement particulière, qui était un petit peu d'ailleurs la voix de son père. C'est un acteur que j'aime énormément, et c'est un ami en plus.
Une voix que vous entendrez donc demain dans France Bleu Midi Ensemble à partir de 12h30 sur France Bleu. Daniel Thompson et Jean-François Stévenin, vous restez avec nous, on va continuer à parler de ce festival du cinéma policier à Beaune, mais dans un instant c'est Patrice Gascoigne pour l'actu de la télé. France Bleu.
France Bleu, le matin, on se réveille, on s'informe.
On dépense 2520 euros chaque minute en France.
L'essentiel de l'info dès le réveil.
Dans deux minutes, on fait la météo ensemble.
France Bleu.
Je vais voir ce que je peux faire, je ne vous promets rien.
France Bleu matin.
5 degrés et des bisous de Gilles.
Tout ce qu'il faut savoir dès le réveil, dès 5 heures, sur France Bleu.
France Bleu, France Bleu.
France Bleu midi ensemble. En direct du Festival international du film policier de Beaune, Daniela Lombroso.
Avec nos invités Daniel Thompson et Jean-François Stévenin, c'est le moment de retrouver Patrice Gascoigne pour parler de la télé ce soir, Patrice.
Oui, le téléphone pleure, hein. Vous n'êtes pas là, donc c'est un peu loin, mais bon, vous êtes parti à Beaune sans nous, mais moi je vous emmène à Courchevel. Voilà, j'emmène tous les auditeurs à Courchevel avec ce documentaire sur Énergie 12 qui poursuit sa lente mutation pour changer petit à petit son image de chaîne un peu trop marquée télé-réalité et puis surtout pour booster ses audiences. Et donc ça passe
par
des nouveautés.
C'est pas Nabila à Courchevel alors.
Exactement. Comme par exemple ce soir, donc c'est la diffusion du premier vrai grand reportage inédit d'une durée de 90 minutes intitulé « Une saison extraordinaire à Courchevel ». Le type de sujet que vous auriez très bien pu voir sur M6 ou sur France 2, donc sur une grosse chaîne. Donc gros plan sur Courchevel, la station de ski la plus glamour, la plus star, la plus people. Courchevel niché au cœur du massif du Mont-Blanc. Courchevel où pour acheter un terrain, c'est un peu rare, c'est difficile, il faut signer un chèque de 20 millions d'euros. Courchevel et sa quinzaine de restaurants étoilés. Donc Énergie 12 a pu suivre les coulisses des préparatifs des dernières fêtes de fin d'année dans la station. Période importante où se joue la majeure partie du chiffre d'affaires de la station. C'est à découvrir ce soir sur Énergie 12 à 20h saison, à 20h50, une saison extraordinaire à Courchevel.
Vous avez autre chose sinon à nous proposer pour ce soir ?
Eh bien, D8 qui poursuit sur sa lancée en programmant du divertissement le jeudi soir, ce qui est assez malin vu la concurrence qui est un peu plus sérieuse hein, sur les autres chaînes, les autres programmations. Donc cette semaine, place à un nouveau numéro de Derrière le poste, émission que Cyril Hanouna a confiée à la Tornade Blonde de Touche pas à mon poste et Nora Malagret. Le principe de l'émission est simple, en compagnie d'Enora, des vedettes de la télévision viennent nous faire découvrir les coulisses ou la face cachée d'un programme culte. Par exemple, ce soir, rien que pour vous, Daniela, vous saurez tout sur Casimir et l'île aux enfants. Par exemple, vous apprendrez qu'il a failli ne jamais exister parce qu'il était jugé trop laid, qu'il a été reçu. Mais oui, c'est vrai.
Mais faut pas m'annoncer un truc pareil comme ça sur un tour
cruel.
De révolte.
Et c'est pour me venger, vous n'êtes pas là. Voilà. Donc, et puis il a été reçu aussi par le chef de l'État, Casimir. On en saura plus aussi sur Télématin. Ça fait 30 ans que cette émission nous réveille sur France 2. 30 ans que William Lémergie se lève aux aurores pour la présenter. Eh bien, son fils, Jerry, le fils de William Lémergie, va vous dévoiler les tics et les tocs de son père. Voilà, c'est ce soir sur D8, derrière le poste, à 20h50. Et puis sinon, j'imagine que tous les garçons seront peut-être devant un certain France-Brésil sur TF1 en direct du Stade de France.
Voilà, ça sera plutôt ça, hein, je crois, le choix. Merci, Patrice Gascoigne. Il y a trois hommages hein, qui sont rendus à Beaune, à John McTiernan, on va en parler dans quelques instants avec Antoine Léris, mais aussi à Bertrand Tavernier et à Claude Brasseur, justement. Est-ce que vous êtes intervenu dans ces choix ?
Les choix de Claude Brasseur ?
Ou les choix des hommages que vous allez rendre cette
année ? Non. Les choix de Claude Brasseur, j'y vais. Oui, je suis intervenue. Parce que c'est vrai que quand Claude a accepté de jouer dans la Boom, c'était un moment formidable parce que il était vraiment au top de sa carrière et j'ai trouvé qu'il y avait une grande générosité d'accepter à ce moment-là un film où en fait la vedette était une petite fille que nous n'avions d'ailleurs pas encore trouvée.
Totalement inconnue.
Et voilà, et il a été, voilà, et c'est pour ça que j'ai mal interprété votre question. Non, je n'ai pas.
Vous êtes pas intervenu. En tout cas, ce qui a été un petit peu étrange, c'est qu'après, il a fait un film où il était l'amant de Sophie Marceau. Alors pour nous, c'était sa fille, c'était un truc bizarre, quoi. Mais il faut comprendre que c'est du cinéma.
Je ne sais pas du tout comment le public a accueilli ça. C'est vrai que j'ai le souvenir que Claude Pinoteau était un peu secoué par la nouvelle. Mais bon.
Merci Daniel Thompson, Jean-François Stévenin, évidemment. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 13h30.
France Bleu Midi. Ensemble, les coulisses sont sur les réseaux sociaux. France Bleu aime Emma Louise. Jungle. Emma Louise.
Un coup de cœur France Bleu.
Et vous écoutez France Bleu Bourgogne, on retrouve Daniel Ombroso en direct de Beaune juste après les infos que voici, présentées par Clémence Fuleda. Donc à tout de suite en direct de Beaune après les infos.
Le copilote de l'A320 de la Germanwings était seul aux commandes et il a volontairement actionné la descente de l'avion avant que cet avion ne s'écrase dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà les toutes dernières informations qui viennent de nous parvenir. Le procureur de Marseille, chargé de l'enquête, Brice Robin, tenait une conférence de presse à l'instant. On l'écoute.
Puis on entend le commandant de bord demander au copilote de prendre les commandes. Et on entend à la fois le bruit d'un siège qui recule et le bruit d'une porte qui se ferme. À ce moment-là, le copilote est donc seul aux commandes. C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. On entend plusieurs appels du commandant de bord demandant l'accès à la cabine de pilotage. Aucune réponse de la part du copilote. On entend, à ce moment-là, un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine. Et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Alors, il a donc actionné ce bouton commandant la perte d'altitude pour une raison qui, aujourd'hui, nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion.
Un suicide ou attentat, il est trop tôt pour le dire. Donc le copilote, en revanche, on le sait, était de nationalité allemande. Il comptait environ 630 heures de vol et avait achevé sa formation avec Lufthansa en 2013. Je vous rappelle que tous les 150 passagers sont morts après cet accident d'avion il y a deux jours dans les Alpes de Haute-Provence. Certains proches des victimes sont arrivés ce matin à Marignane, près de Marseille. Les opérations sur le site, elles, ont repris aussi ce matin pour évacuer les corps. Des analyses ADN vont commencer dès cet après-midi. Les corps de trois Français tués dans l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis vont être eux rapatriés cet après-midi. Cet attentat du 19 mars a coûté la vie à 21 personnes, dont 20 touristes étrangers. Selon le ministre de l'Intérieur tunisien, 23 suspects ont été arrêtés. François Hollande participera dimanche à une marche républicaine contre le terrorisme à Tunis. Patrons et salariés du transport routier à nouveau autour de la table pour parler salaire. Il y a déjà eu plusieurs grèves et plusieurs réunions. Les chauffeurs routiers demandent environ 4% d'augmentation, mais le patronat reste bloqué sur 2%. La croissance économique a été de 0,4% l'année dernière. L'INSEE a publié les chiffres ce matin. Le pouvoir d'achat des ménages augmente lui aussi légèrement, plus 1,1%. Pas forcément suffisant pour s'offrir une nouvelle voiture, d'autant que les Français achètent des véhicules qui sont de plus en plus chers. C'est ce que montre la dernière étude du magazine Autolargus, qui a passé au crible le prix moyen des voitures neuves depuis 4 ans, Dominique Azoué.
Oui, alors en 2010, le prix moyen des voitures neuves était de 19 767 euros précisément. En 2014, les automobilistes qui ont acheté un véhicule neuf ont déboursé un peu plus de 24 000 euros, soit 4 000 euros de plus. Et pourtant, les consommateurs choisissent des voitures moins lourdes, équipées de moteurs de plus petites cylindrées et qui consomment un peu moins qu'il y a 4 ans. Alors ce qui explique l'envolée des prix, c'est l'équipement avec toujours plus d'électronique, mais aussi des feux à diode, la conduite assistée, les écrans tactiles, etc.
Et résultat, ils se vendent de moins en moins de voitures neuves.
L'an dernier, les constructeurs ont vendu 500 000 véhicules neufs de moins qu'en 2009. Les consommateurs se rabattent sur l'occasion. L'an dernier, il s'est vendu 3 fois plus de voitures d'occasion que de voitures neuves dans l'Hexagone.
Merci Dominique Azoué. Et un mot de la situation au Yémen, dans le sud du pays. Des partisans et des adversaires du président sont en train de combattre. Cette nuit, l'Arabie Saoudite et plusieurs autres pays arabes ont lancé des frappes aériennes pour tenter d'arrêter les rebelles chiites qui progressent vers le sud d'où le président yéménite s'est retranché. Et puis le football, les Bleus affrontent le Brésil ce soir. Ce n'est pas une finale de Coupe du Monde, mais un match amical. Coup d'envoi à 21h.
Merci Clémence Fuleda. Vous écoutez France Bleu Bourgogne. On retrouve tout de suite Daniel Alombroso et ses invités en direct de Beaune à l'occasion du festival du film policier.
Le midi, ensemble, Daniel Alombroso.
C'est la deuxième partie de France Bleu Midi ensemble avec Daniel Thompson et Jean-François Stévenin pour parler du film policier. Et justement avec Antoine Léris, nous y reviendrons au film policier, en particulier à l'hommage qui a été rendu hier soir à John McTiernan.
Ouais, McTiernan, grand réalisateur américain, grand réalisateur de films d'action. Vous connaissez peut-être pas son nom, vous connaissez forcément ses films. Si je vous dis À la poursuite d'Octobre Rouge ou Pièce de Cristal ou Une journée en enfer ou le remake de l'affaire Thomas Crown, ouais, c'est des films qu'on a tous en tête. On lui a rendu hommage hier, on l'a vu sur scène, c'est un taiseux. Est-ce que vous, Daniel Thompson, qui avez vécu à New York, qui parlait donc anglais parfaitement, vous avez discuté un peu avec lui?
On a
a bavardé un petit peu hier soir.
Parce qu'il a été très peu disserté hier, hein. Il a dit à peine quelques mots.
Oui, je pense que c'est un homme qui ne parle pas beaucoup, mais enfin voilà, on a un petit peu parlé du fait qu'il habite dans le Wyoming et qu'il est venu donc, de là-bas, ce qui est un long voyage, qu'il va rester jusqu'à samedi. On s'est dit qu'on se reverrait aujourd'hui. C'est vrai qu'hier, il y avait un petit peu beaucoup de monde et que tout le monde faisait un peu connaissance avec tout le monde. Mais voilà, c'est un homme qui n'a pas l'air particulièrement expansif dans la parole, mais quand on voit ses films, ils le sont. Oui.
On va y revenir, évidemment. C'est France Bleu Midi Ensemble, c'est la deuxième partie, c'est jusqu'à 1h30. Jean-François Stévenin, Daniel Thompson, quel est le plaisir qu'il y a à être membre d'un jury pour vous ?
Vous savez, c'est un bain de cinéma, ce que nous aimons tous, parce que tous les gens qui acceptent de faire partie d'un jury sont quand même des gens qui adorent l'idée de voir 3 films dans la journée pendant quelques jours.
Mon expérience passée,
parce que j'ai été sur d'autres jurys, contrairement à ce que disait Jean-François, c'est que on vit dans une sorte de cocon pendant quelques jours et ça fait beaucoup de bien par rapport à la vraie vie qui bien sûr nous attaque de tous les côtés tous et on vit vraiment dans un petit peu enfermé dans cet univers de cinéma et d'amitié parce que très vite
on fait des rencontres aussi non
on fait des rencontres de... absolument et puis en plus on voit bien sûr les films sur un très très grand écran dans des salles avec le public. Ce qui est finalement bon, c'est vrai que dans nos activités, quelles qu'elles soient, même si on est des gens qui adorons le cinéma et qui allons beaucoup au cinéma, on n'arrive pas quand même dans la vraie vie à voir 3 films par jour et à s'immerger à ce point-là. Donc, en plus, on arrive en général dans des lieux magnifiques, on est merveilleusement bien traité, et voilà, c'est un entracte merveilleux dans la vie, je trouve.
Vos vraies vies. Moi, j'aimerais qu'on parle de vos vraies vies justement, Jean-François Sténeufnin. J'ai appris que vous avez commencé votre carrière par le commerce. En fait, vous avez fait HEC ou en tout cas une prépa HEC, et puis
HEC, mais il fallait faire quelque chose. Moi, j'étais à Lons-le-Saunier, Jura, des parents un peu autoritaires. Donc j'ai ramé, j'ai fait 1 an de maths sup, 2 ans de prépa HEC, et par contre, miraculeusement, je suis rentré à l'école, et là, c'était cinéma pendant 3 ans.
Ah oui.
Il y avait la Cinémathèque, rue d'Ulm, et voilà. Donc,
vous en avez profité pour voir
un souvenir. On avait,
plein de films.
C'était un peu le style à l'époque. Dès qu'on était dans une grosse boîte comme ça, un peu élitiste, qu'on était un peu les cadors du truc... On laissait tout tomber. Enfin, moi, ils avaient créé pour nous une option problèmes humains, c'est-à-dire la communication. Parce qu'on voulait faire ni la finance, ni la banque. On venait même pas. Alors, ils avaient créé, on était 12.
C'est-à-dire que le terme communication n'existait même pas encore à l'époque. Alors, et on disait problèmes humains.
Les premières boîtes d'investigation commençaient à faire des enquêtes et tout ça. Genre. Et là, ils ont créé une boîte juste pour nous, 12 personnes comme ça. Et dès que j'ai pu me sauver, bah, je me suis tiré.
Vous disiez, Jean-François Stévenin, que votre vie, ce sont des coups de backstage. Coulisses, donc. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Vous avez dit ça une fois.
Ah bon ?
Oui. Ça ne vous parle pas du tout ?
C'est que je crois dans les... Oui, je crois bien en deux... J'aime pas trop ce qui est très frontal. Et par exemple, on parlait de Johnny tout à l'heure. Si on a la chance de pouvoir voir un concert depuis le backstage, et d'un seul coup de voir la préparation du concert et de voir d'un seul coup de passer au milieu de la salle pendant le concert... Le spectacle est multiplié par 50.
Vous aimez voir ce qui se passe derrière aussi, quoi.
Très souvent, je fais ça avec aussi mon ami Laurent Gérard, qui, quand j'ai vu le spectacle plusieurs fois, me dit « Non, mets-toi là, près de l'ampli. » Donc, je le vois de profil. Je vois dans un coin, je vois les 3500 personnes, et je vois lui de profil qui fait les sorties de scène, qui rentre à toute vitesse. C'est vachement enrichissant, c'est bien le backstage.
Vous aimez voir les coulisses. Vous êtes du genre à vouloir voir ce qu'il y a derrière le cinéma aussi. C'est pour ça peut-être que vous en avez fait, d'aller voir derrière l'écran, derrière la toile blanche, comme l'avait fait Woody Allen.
C'est pour ça que j'ai fait du cinéma, moi. C'est-à-dire que quand j'étais gosse, c'était vraiment la carotte pour me faire avancer à l'école. Si j'avais dit, selon le niveau des notes, j'avais le droit de choisir le film. Il n'y en avait qu'un par semaine. Moi, j'habitais près d'une forêt. Enfin, bon,
et puis des parents qui n'étaient pas du tout là-dedans. Hein. Votre père plantait des téléskis et votre maman était institutrice, contrairement à Daniel, dont la maman était actrice. On en parle peu d'ailleurs de votre maman. En général, on parle plutôt de Gérard Houry, votre père.
Parce que ma maman s'est arrêtée, en fait. Ce métier, vous savez, c'est un métier où il faut un véritable acharnement. je crois que c'est aussi une des qualités des comédiens qui ont le feu sacré, et je pense que elle ne l'avait pas, et l'idée des castings, d'attendre aussi la réponse, etc., c'est quelque chose qui l'humiliait, et elle n'aimait pas suffisamment ça, donc elle s'est arrêtée, alors que mon père était en effet un acharné et qu'il l'a prouvé, et voilà, et je voudrais rajouter quelque chose dans ce que disait Jean-François, parce que moi j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui avait créé une société qui s'appelait KCP, et j'ai vu tous les grands concerts justement de backstage, qui allaient des Rolling Stones en passant par les Who, en passant par David Bowie, et c'est vrai que cette vision du backstage, ce mot backstage, j'y fais partie de ma vie, c'est quelque chose de complètement magique, et je comprends pourquoi les groupies attendent et aimeraient tellement franchir cette porte qui fait que tout à coup on se retrouve de l'autre côté de ce miroir-là.
Même quand on est tombé dans le cinéma, quand on était petit, on a encore cette magie-là, cette magie des coulisses.
Quand vous parliez tout à l'heure d'écran blanc, effectivement, moi, je voyais les films avec ça qui m'intéressait vraiment, j'avais l'impression que c'est une partie de la vraie vie. Donc, c'est ce qui me donnait l'énergie, j'avais absolument envie de voir ce qu'il y avait derrière un jour. Et quand j'ai réussi à quitter tout l'univers commercial, le pseudo-universitaire où j'étais, c'était alors que j'avais une très belle situation qu'on m'offrait, j'ai dit, à une condition, s'il y a un film qui se présente, je suis libre dans les 48 heures. Alors, pourquoi ? Pour voir un film. Comme quelqu'un qui a envie de, qui aime la Formule 1,
ouais,
qui a envie
de
faire une journée avec les voitures dans les paddocks.
Finalement, c'est un point commun que vous avez avec Antoine Léris, mais lui, il a choisi d'être journaliste cinéma. C'est the spécialiste du cinéma dans France Bleu Midi Ensemble. Et dans un instant, il nous parle d'un hommage rendu à Beaune.
France Bleu. Innovation, recherche, qualité. Les métiers d'art sont des savoir-faire anciens, transmis et réinventés par des professionnels passionnés. Les 27, 28, 29 mars, choisissez parmi 5000 événements dans toute la France et partez en famille à la rencontre de ces maîtres de la matière au sein des ateliers, lieux de formation et manifestations. Retrouvez le programme complet sur www.journeedesmetiersd'art.eu.
France Bleu Midi Ensemble, en direct du Festival International du Film Policier de Beaune, Daniela Lombroso.
Avec vos invités aujourd'hui, Daniel Thompson et Jean-François Thévenin, Antoine Léris vous a préparé un petit quiz pour tester vos connaissances en polar. Vous êtes quand même membre du jury, on a besoin de savoir si vous êtes expert ou
alors,
pas expert. Alors c'est parti.
Alors ben, tiens, on va commencer par le peut-être un des maîtres du genre qui s'appelle Sir Alfred Hitchcock. En 1954 sort un film en trois dimensions. C'était la mode à l'époque, qui est un des grands polars de la carrière d'Alfred Hitchcock. Je vous demande le titre de ce film-là.
En trois dimensions ?
Oui, en trois dimensions. Alfred Hitchcock a fait un film en trois dimensions. Le premier des collaborations avec Grace Kelly, la première des trois.
Ah, To Catch a Thief ?
Non, presque. Parce que Daniel Thompson ne connaît que les titres en anglais.
Je suis désolée.
Ça commence par Dial M.
Dial M for Murder.
Merci, le crime était presque parfait pour nous tous. Bravo, un point pour Daniel Thompson. Excellent. On va continuer avec un autre maître du genre, Sidney Lumet, qui est vraiment un des maîtres du film policier à Hollywood. Il a fait Serpico, il a fait Les 12 hommes en colère, il a fait Un après-midi de chien, beaucoup, beaucoup de grands films. Paul Newman, dans un de ses films sortis en 82, incarne un avocat alcoolique et dépressif.
Le verdict.
Merci.
Deux points pour Daniel Thompson.
Film extraordinaire, Paul Newman, plus beau que jamais. Pourtant, il est vieux, il est...
Pas vieux, pas si vieux que ça. Il est beaucoup plus jeune que nous. Il est magnifique.
Alors, à quel article du Code de santé publique fait référence le titre du film de Bertrand Tavernier, sorti en 1992 et qui dépeint le quotidien de la Brigade des Stupes de Paris ?
L624.
627.
624, je crois que c'est un médicament homéopathique.
C'est autre chose. Grand hommage d'ailleurs à Bertrand Tavernier qui sera samedi au Festival de Beaune. Et puis, si vous voulez revoir gratuitement le film L627, c'est sur le site Arte Plus 7. Il a été diffusé hier soir au moment de la cérémonie d'ouverture. Alors, dans quel film de, moi je vais le dire en français, Robin Davis, sorti en 1979, ça c'est pour vous, un certain Jean-François Thévenin se retrouve coincé entre deux flingues. Deux flingues de deux policiers, Claude Rich et Claude Brasseur.
Avec Dante de Sarthe. Non. Presque. Parole de flic. Non.
Non.
Alors, il est tellement nul en polar que même ses films à lui, il s'en souvient pas, Jean-François Stévenin.
La guerre des polices avec Jean-François Stévenin, donc 1979, c'est là, heureusement que vous l'avez mis.
Moi, je propose qu'on le sorte hein, du jury, non?
Ah bah non, mais il a bien répondu au bout du troisième coup, c'est presque ça. Bon, quel est le nom de cet acteur et réalisateur, notamment du 36 Quai des Orfèvres, excellent film, qui a donc la particularité d'avoir été flic avant d'entrer dans le métier?
Henri-Georges Clouzot.
Olivier Marshall.
Bravo. Ah
pardon, 36 Quai des Orfèvres, excusez-moi, je pensais à Quai des Orfèvres.
Quai des Orfèvres, tout court.
Ah oui, moi aussi, j'étais sûr.
Surtout ancien flic, Clouzot, il n'était pas ancien flic.
Non, justement, non. Pas du tout. Olivier Marshall, effectivement.
Olivier Marshall, bravo Daniela Lombroso, effectivement, qui a été dans la police pendant 14 ans, à la PJ de Versailles notamment. Et c'est Michel Larocque, avec qui il était en couple, qui lui a conseillé d'aller prendre des cours de comédie. Et c'est comme ça que sa carrière a commencé. On a le temps pour deux petites questions, une avant-dernière. Dans quel film de Sidney Pollack, sorti en 1975, Robert Redford incarne un bureaucrate de la CIA qui découvre un service secret à l'intérieur du service secret.
Les trois jours du Condor.
Bravo Jean-François.
Bravo.
Vous avez tourné avec Sidney Pollack, Daniel Confondel.
Oui, j'ai eu le bonheur de tourner avec Sidney Pollack, qui m'a fait un cadeau. C'était un vrai cadeau, car il a refusé d'être payé, parce qu'il m'a dit qu'on n'avait pas les moyens de se l'offrir, ce qui était absolument vrai. Et donc, il est venu jouer le rôle du metteur en scène américain mythique, parce que je voulais un metteur en scène américain mythique pour jouer ce personnage. La seule exigence qu'il a eue, c'est de ne pas s'appeler, de ne pas jouer son propre rôle, donc de trouver un autre nom. Et donc, ce que j'ai fait.
Pourquoi ça? Pourquoi il voulait pas être Sidney Pollack, le vrai, dans le film?
Je sais pas, ça le gênait. Il voulait pas, il adorait en fait jouer la comédie, il adorait faire l'acteur, et je pense que jouer son propre rôle, ça l'amusait pas, alors que jouer un autre metteur en scène, ça l'amusait beaucoup. Sympa, voilà. Et merveilleusement sympathique. Et voilà. Et la deuxième exigence, c'est qu'il a demandé de garder un manteau de cuir qu'on lui avait mis. Et voilà. Et ça a été, voilà, c'est un souvenir magnifique. Et c'est quelqu'un qui manque beaucoup au cinéma et à moi.
Vous nous parlerez tout à l'heure des caprices d'acteurs, alors Daniel Thompson, parce que je sens que vous devez avoir quelques anecdotes à raconter, même si celui-là n'était pas vraiment un caprice de garder un manteau en cuir pour Sidney Pollack. Daniel Thompson et Jean-François Stévenin qui reste avec vous jusqu'à 13h30 aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble.
France Bleu Midi Ensemble, avec vous sur les réseaux sociaux jusqu'à 13h30. Le top France Bleu.
Parce que vous êtes au top,
Éric Bastien.
Nous le serons aussi. Au menu, Marc Toesca, présentateur mythique du top 50 pour le top des tubes. Il y aura également le top actu de vos artistes préférés, le top découverte ou encore le top live.
Le top France Bleu, tout à l'heure, de 19h à 20h sur France Bleu. Top.
And your head first with the stars.
in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
This is the life. C'était Amy MacDonald sur France Bleu.
France Bleu Midi Ensemble, en direct du Festival International du Film Policier de Beaune, Daniela Lombroso.
Avec Jean-François Stégenin et Daniel Thompson, qui sont tous les deux respectivement membres et présidentes du jury du Festival de Beaune. Jean-François Stégenin, j'ai lu quelque part que vous ne regardiez pas vos films une fois finis. Vous avez dit, c'est comme...
On a eu la preuve tout à l'heure.
C'est ça. Vous avez dit, c'est comme quand tu te vois le matin au réveil, tu trouves que tu as une sale gueule.
Oui. Ah non, ça c'est terrible, mais je suis pas tout seul hein, dans ce cas-là. Parce que sur c'est le film, on veut tellement faire bien, vivre le truc. Que de se voir après à grimacer, à se dire mais j'aurais pu faire ça, mais c'est trop tard. Et puis il y a un regret. Alors quand on vous dit oh, dans le film de machin, le film n'est pas terrible, mais toi qu'est-ce que t'es bon. Ça c'est une catastrophe. Ah non, ça demanderait, c'est irregardable.
Daniel Thompson.
Forcément
Thompson.
Parce que c'est pas fait pour. L'écran c'est fait pour le public, comme là vous êtes là. C'est en réflexion. D'être la face comme ça avec ça va pas.
Daniel Thompson, les acteurs avec lesquels vous avez tourné jusqu'à présent en tant que réalisatrice, ils regardaient les films après? Il y en a qui vous faisaient des commentaires, là le montage est pas terrible, là tu aurais pas dû prendre cette prise, des choses
ça n'arrive jamais. Non, ce qui est très intéressant sur un plateau, c'est par exemple, vous savez, nous avons ce qu'on appelle le combo, c'est-à-dire que nous avons un écran témoin
qui permet de visionner après une prise.
Et très moche il y a des années, qui maintenant est beaucoup plus grand et assez beau, donc on peut regarder la prise qu'on vient de tourner. Et alors certains acteurs ne veulent absolument jamais se voir et ne veulent surtout pas voir ce qu'ils ont fait. Je pense que tu dois faire partie de cela. Et d'autres, en revanche, ont besoin de regarder tout de suite la prise et se précipitent sur le combo. Pour probablement essayer de faire autre chose ou de refaire la même chose. Enfin,
quelqu'un comme Patrick Bruel, par exemple, avec lequel vous avez tourné dans Le Code a changé.
Patrick est plutôt quelqu'un qui regarde le combo. Oui, absolument. Claude Rich aussi. Mais ça fait vraiment partie de la salade intérieure et de la manière dont chacun...
Claude Rich qui était exceptionnel dans La Bûche.
Oui, Claude Rich dans La Bûche, c'était mon premier film. Alors justement, c'était la première fois que je me retrouvais moi sur un plateau avec les acteurs, puisque en tant qu'auteur, on vient rendre visite et déjeuner avec les comédiens, avec l'équipe. Quand on est tout à coup sur le plateau, on se rend compte que c'est vraiment un autre métier. Et voilà. Et donc je me suis rendu compte un petit peu, j'ai beaucoup fait de films, ce qu'on appelle les films chorales, c'est-à-dire avec beaucoup de monde, et ça m'intéresse toujours beaucoup de voir comment chacun, c'est le cas de le dire, joue son truc, comment il se débrouille, comment certains sont complètement concentrés, d'autres sont au portable jusqu'à ce que je dise moteur et finalement arrive.
Il n'y a pas de règle.
Il n'y a aucune règle. Et moi d'ailleurs, je m'en fiche complètement à partir du moment où je...
Vous avez un souvenir d'un caprice de star mémorable, d'une difficulté particulière avec un acteur?
Non, j'ai eu très peu de difficultés avec les acteurs. Je dois dire, je les adore et donc déjà, ils doivent le ressentir. Bon, il y a eu le fameux caprice, mais ça, c'est l'histoire de Funès avec mon père, où le fameux jour de tournage de Rabbi Jacob, où il y avait la fameuse scène des grimaces, où de Funès donc, devait attirer l'attention d'un CRS à la fameuse station-service, et où ce matin-là, il y avait eu une épouvantable critique sur un des films qu'avait fait Louis, un gendarme ou un autre, je ne sais plus, où une critique avait écrit et Louis de Funès grimaçant comme à son habitude, et ça l'avait beaucoup meurtri. Et mon père est arrivé ce jour-là sur le plateau et on lui a dit, il y a un problème, Louis est dans sa loge, il refuse de tourner la scène parce qu'il fait des grimaces. Et dans notre film, c'était pas des grimaces gratuites du tout, c'était vraiment, ça faisait partie du fait que c'était très important. Et ça a duré quelques heures où il y a eu un affrontement entre eux.
Et quand il disait non, je ne ferai pas des grimaces, il la faisait à la De Funès, justement.
Non, pas du tout. Il la faisait comme il était dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un de très posé, de très calme et de très meurtri parce qu'on avait dit de lui, parce que comme on le sait tous, c'était un personnage absolument génial et justement, il arrivait à faire des choses inventer des choses sur un plateau qui était magnifique. Et donc, voilà, ça a été un des caprices qui a quand même retardé le tournage de 2-3 heures, ce qui est très long pour un film.
Daniel Thompson, Jean-François Stévenin, vous restez avec nous dans un instant. On reparle de cinéma avec l'hommage qui a été rendu hier à John McTiernan et ce sera Antoine Léris, à tout de suite.
France Bleu fête les 60 ans de Gîtes de France.
Visite d'hébergements originaux, activités ludiques à faire en famille, rencontres conviviales avec les propriétaires.
À l'occasion du week-end Portes ouvertes Gîtes de France, partout en France, les 28 et 29 mars, France Bleu vous offre votre chèque cadeau Gîtes de France.
Pour en savoir plus sur le week-end Portes ouvertes et jouer, rendez-vous sur francebleu.fr.
France Bleu
midi ensemble. En direct du Festival international du film policier de Beaune, Daniela Lombroso.
Avec vos invités aujourd'hui, Jean-François Stévenin et Daniel Thompson, et pour vous faire revivre la soirée d'hier, c'est Antoine Léris.
En tout cas, pour revivre cet hommage à John McTiernan, c'est vrai que c'est... Alors, peut-être que vous ne connaissez pas le nom, mais vous connaissez les films, on en parlait, Piège de cristal, À la poursuite d'Octobre rouge, Une journée en enfer. John McTiernan, c'est un réalisateur important dans le cinéma américain, c'est quelqu'un qui a posé les bases du genre action dans les années 90. C'est lui qui a vraiment créé ces films qui allaient à 100 à l'heure, beaucoup d'explosions, de fusillades, et en même toujours des héros solitaires au milieu de tout ça. Jean-François Roger qui lui rendait cet hommage hier, on a parlé, un des symboles c'est la scène dans Piège de cristal. Bruce Willis se retrouve pieds nus pendant tout le film, pieds nus avec du verre partout sur le sol. Voilà, c'est ça. John McTiernan, c'est le cinéma, ce sont des anti-héros qui se retrouvent face au danger et qui sont obligés d'aller au-delà de ce qu'un humain est capable de faire. Il y a beaucoup de grands films pendant une période très courte en fait. C'est, en gros, ça commence en 87 avec Predator. Et ça se termine en 2003 avec Basic. Pourquoi ça se termine en 2003, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, c'est que à ce moment-là sort une affaire autour d'un film que John McTiernan a tourné et où en fait il avait mis son producteur sur écoute, qui est une pratique qui se fait régulièrement à Hollywood, sauf que lui a été pris, il a menti devant un jury du FBI qui l'a convoqué pour savoir le fin mot de cette affaire, et il s'est retrouvé pendant un an en prison. Il est sorti il y a à peine quelques mois, et donc c'est c'est pour ça que c'est peut-être encore plus impressionnant.
Et pourquoi avait-il mis son producteur sur écoute?
Alors parce que justement, et ça fait partie de la spécificité de la carrière de John McTiernan, à Hollywood, il y a ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire est-ce qu'on a le dernier mot sur le montage de ces films, ce qui n'est pas le cas en France. C'est-à-dire qu'il y a des films où les producteurs décident.
On a le dernier mot en France.
Oui, voilà, justement. Il n'y a pas de problème parce qu'aux États-Unis.
La question ne se pose pas, quoi.
Aux États-Unis, ce sont les producteurs qui, parfois, décident de comment doit finir le film, de comment doit se dérouler l'histoire. Et ça, John McTiernan l'a toujours refusé. C'est pour ça qu'il a mis son producteur sur écoute.
Il voulait connaître la fin de son film, en fait.
Il veut décider de la fin de son film. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la différence avec un autre grand réalisateur qui est exactement de la même génération, qui est James Cameron, qui a tourné Avatar récemment et qui, dans les années 90, a tourné tous les Terminator, Alien, etc. Et qui, lui, s'est mis dans le système des studios. Et résultat, on en a un qui, aujourd'hui, est milliardaire, fait des films absolument immenses, et l'autre qui, donc, n'a pas tourné depuis 10 ans. Est-ce que... mais ça, je pose la question aux comédiens et à la réalisatrice. Est-ce qu'il faut faire comme James Cameron et accepter le système du cinéma tel qu'il est, s'y conformer, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut accepter d'envoyer les choses balader?
Moi, je crois qu'on fait comme on peut. Hein. C'est-à-dire, si ça devient... Parce que ça peut arriver même avant le tournage. Si d'un seul coup, on sent que le bébé qu'on s'apprête à fabriquer va être détourné... il faut arrêter. Ouais. Non, il faut vraiment... Chacun fait comme il peut.
Là, justement, on va arrêter. Merci à tous les deux. Merci, Daniel Thompson. On en parlera après. Demain, nous serons également à Beaune pour le Festival du film policier auquel vous pouvez assister. D'ailleurs, vous pouvez venir aux projections avec Jean-François Stévenin et Daniel Thompson. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui.